Monsieur Jean-Luc Servet, Monsieur Philippe Le Guénec, qui revient de cette magnifique performance à Pontivy. Tu restes modeste quand même, Philippe. Et il paraît qu'en plus, vous étiez premier si vous n'aviez pas fait une petite boulette. D'accord. Je ne peux pas faire appel ? Demande à Pierre Léon, il va attaquer devant le tribunal administratif et vous avez une chance. Hein. Morgane Petit. Madame Katia Sculot. Madame Nadine Rouet. Madame Nicole Le Gagneux. Monsieur Christophe Richard. Madame Juliette Cordès a donné pouvoir à monsieur Pascal Lejean. Monsieur Jean-Luc Servet. Monsieur Olivier Buquin. Monsieur Jean-Paul Kergosien. Madame Christine Desjardins. Monsieur Charles Bietri est absent. Madame Christine Lamandé. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Catherine Isoard. Monsieur Michel Durand. Présent. Madame Marie-Pierre Gasser a donné pouvoir à Madame Christine Lamandé. Monsieur Loïc Houdois. Présent. Madame Sylvie Robineau. Présent. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Il exceptionnellement n'est pas en costume.
Désolé.
On s'inquiète un peu. Problème de pressing ?
Non, problème de timing.
Pardon, d'accord, problème de timing. Oui, c'est vrai qu'on sort de réunion, il n'a pas eu le temps de se changer. Et donc, Olivier Lepic, qui n'est pas en costume non plus, donc tu n'as pas... un secrétaire de séance, Morgane, tu acceptes d'être secrétaire de séance ? Parfait. Nous avons donc le quorum pour délibérer, et je vous propose de commencer immédiatement... par le procès-verbal de la séance du 16 février 2023, est-ce qu'il y a des commentaires, Tom ?
Alors j'aurais peut-être pu faire la remarque avant par courriel, mais simplement sur la délibération 2023-006, c'est dans les commentaires en bleu, c'est marqué Monsieur Luneau, alors qu'il me semble que c'est moi qui avais pris la parole. Voilà. C'est
d'accord. Ben, on corrigera.
Merci.
Pas de souci. Donc, ce PV est adopté. Je vous remercie. On passe aux décisions du maire, numérotées 2023-12 jusqu'à 2023-32. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ?
Non, juste quelques remarques. La 2023-22, donc on a pour habitude de voir le prix de la location. Là, je pense que c'est un oubli, visiblement. Ce n'est pas noté.
Sans doute.
La demande d'autorisation d'urbanisme pour la 2023-23 de rue des Corrigans, c'est en fait les portes qui donnent sur la rue des Corrigans pour remonter à l'étage, ou c'est... Oui, c'est ça.
C'est la porte d'entrée du Bagad.
Je vous remercie. Pour les décisions 2023-12 à 2023-18, j'avais posé la question en commission finances de la disparité des montants pour l'allocation des parcelles à des propriétaires privés pour faire différents parkings. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez réharmoniser un jour où ça se fait un petit peu...
C'est pas harmonisable. Les terrains sont situés à des endroits différents. Les propriétaires, il y en a qui sont plus stratégiques que d'autres. Il y a toujours une négociation avec le propriétaire. Donc, en fait, la négociation se fait souvent de gré à gré. Après, c'est une négociation entre deux parties. Si la mairie estime que c'est trop cher, elle ne loue pas. Et donc, on ne peut pas harmoniser ce genre de choses. C'est impossible. Parce qu'un terrain qui est situé au milieu des bois... à Quelvesin, en location, ne vaut pas le même prix qu'un terrain au bas du tumulus qui va servir de parking pour le marché. Donc, on se tirerait une balle dans le pied et on serait incapable de gérer le foncier locatif si on faisait ça.
Merci.
Oui. Le bordereau 2023-26, c'est pareil, demande d'autorisation d'urbanisme, rue de l'Oppidum. C'est en fait des travaux au CTM ou c'est sur une autre parcelle ?
C'est les terrains qu'on avait achetés il y a 2-3 ans pour faire un petit peu d'entrepôt, des services techniques, pour mettre tous les gravats qu'on a, les terres, et puis faire un peu de stockage, parce qu'autour du CTM, ça devient un petit peu serré. Et donc, on ne pourra pas faire de clôture, on va faire un merlon tout le tour, on va arranger un petit peu pour que les camions puissent rentrer et faire une petite voirie pour qu'on puisse déposer des matériaux, les reprendre, et puis voilà.
Terrain, justement, il n'était pas, il n'y avait pas eu une remarque en conseil municipal comme quoi ils étaient cadastrés, au niveau du zonage en tout cas, zone naturelle.
Non, je ne me rappelle pas. C'était un qu'on avait acheté qui était la possibilité de faire ce qu'on voulait faire dessus. Donc c'est pour ça qu'on s'était renseigné avant, puis on les avait rachetés. Il y en a qu'un qui est resté au milieu où il y avait un petit problème de famille qui ne voulait pas nous le vendre. Donc on s'est mis à le louer. Donc c'est organisé comme ça, tout va bien.
D'accord. Ouais. Vous pourrez nous donner
les plans ?
Les numéros
Vous donnerez les plans ou le numéro de parcelle, c'est pareil.
Voilà, c'est ça, le numéro de parcelle. Merci.
On vous fera passer ça. On mettra ça là comme travaux, comme ça vous l'aurez, ou la prochaine, ou vous les voulez avant ?
De travaux.
Oui, parce que là, il y a quelqu'un qui le récupérera. Oui, vas-y.
Pas de problème.
Ouais,
ok. Merci. On passe au plat principal. Alors, je vous rappelle que le débat d'orientation budgétaire, mais tout le monde est habitué, il n'y a pas lieu à un vote. Il présente donc les orientations budgétaires de la commune sur l'exercice qui vient, et également de manière un petit peu plus stratégique sur les horizons un peu plus lointains. Comme d'habitude, et sans
costume,
c'est le
président
qui va nous le présenter.
Tout à fait. Vous avez le robe, vous avez eu en papier le robe de
rapport micro. D'orientation. Une fois que tu parles.
Le ROB, qui est le rapport d'orientation budgétaire, et donc qui vous reprend les éléments et un petit peu des éléments écrits, le contexte que je vais pas refaire, 2 années de Covid, la crise en Ukraine, les problèmes énergétiques, les problèmes d'inflation, enfin je pense que vous les avez tous en tête derrière, et qui nous amène effectivement à faire un DOB, où vous retrouvez sur le slide que vous avez... effectivement, à l'écran, un petit peu les fondamentaux que la mairie avait mis en place depuis maintenant 2015-2016, c'est-à-dire de maintenir des charges de personnel à 42% des charges de fonctionnement, un excédent de fonctionnement entre 1,5 million et 2 millions d'euros, de maintenir une CAF entre 2 et 2,5 millions d'euros, ne pas dépasser un endettement de 10 millions d'euros, de maintenir une dette représentant un maximum de 5 années de CAF et maintenir un investissement d'un minimum de 4 millions par an, et maintenir un fonds de roulement, le fonds de roulement nécessaire qu'on avait remis l'année dernière, puisque je vous rappelle que l'attractivité de la commune de Carnac aujourd'hui, si une grande partie de ses recettes, c'est effectivement la fiscalité, elle a aussi une partie de ses recettes qui sont dues à son attractivité. Alors ça peut être effectivement aussi ce qu'on peut appeler des taxes, hein, que ce soit la taxe de séjour, la taxe de jeu ou différentes choses. Et on l'a vu pendant les 2 années du Covid que ça pouvait avoir un impact sur la commune, d'où l'importance d'avoir les moyens nécessaires pour la commune de continuer son fonctionnement dans ces périodes un peu plus compliquées. Ce qui a été le cas 2020-2021 derrière, même si on a bénéficié après coup d'aide de l'État, une compensation de l'État. Sur juste quelques petits rappels, dotation globale de fonctionnement, la DGF, je vous la remets toujours à partir d'une année qui est 2010, qui est un peu un point de départ où on avait 1 976 000 de DGF à l'époque. Et aujourd'hui, on arrive pour 2023 à 748 000 euros, qui est la même DGF que 2022, puisque là, pour 2023, le gouvernement n'a pas fait bouger les dotations globales de fonctionnement, qui est la DGF. Et qu'on pense sans doute retrouver des baisses qui arriveront dans les années futures, vu l'endettement de l'État, et qu'à un moment va se décharger un petit peu sur les collectivités locales à ce niveau-là. La fiscalité directe, alors il y a eu un changement avec la loi Macron, hein, puisque je vous rappelle que la loi Macron, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Et donc, derrière, la commune de Carnac ayant beaucoup de résidences secondaires où la taxe d'habitation existe toujours, a une partie de taxe d'habitation qui existe. Et la compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales était compensée par le pourcentage de la taxe foncier bâti du département, qui était à 15,26. D'où une taxe de foncier bâti aujourd'hui à 30,15, qui se décompose en 14,89 pour la commune de Carnac qui n'a pas bougé, et 15,26 pour le département. Bien sûr, comme on a beaucoup de foncier bâti sur notre commune et derrière, et beaucoup de résidences secondaires, on avait encore une taxe d'habitation, donc on a un coefficient correcteur qui redonne de l'argent à l'État, puisqu'on reçoit plus que ce qu'on avait perdu, donc effectivement, on le redonne à la hauteur un peu plus de 2 millions d'euros. Et on a un fonds national de garantie de solidarité à la hauteur d'1,9 million qui vient en déduction, effectivement, de cette fiscalité qu'on reçoit directement. La projection des recettes et ainsi de suite. Alors je rappelle, comme je l'ai expliqué lors de la commission finances. Vous avez sur ce graphe du réel et effectivement du prévisionnel derrière. Donc on voit bien l'impact qu'on a eu en 2020, la remontée sur certaines courbes en 2021 et qu'on retrouve un petit peu nos produits économiques sur 2022. Une prévision qui est toujours 604 en 2022, 604 000 en 2022 pour une prévisionnelle à 572 000 en 2023. Je rappelle, c'est une prévision, donc on est toujours un petit peu pessimiste. La même chose pour les produits de services publics, la même chose pour les revenus des immeubles et la même chose sur le TCFE. C'est une redevance que chaque citoyen paye sur sa facture d'électricité et il y a une quote-part qui est revenue à la commune qui, vous voyez, qui est relativement stable sur les 10 années que vous voyez là. Sur les recettes propres de fonctionnement, alors un petit peu l'attractivité de la commune, hein, qui sont quand même des taxes, hein, vous avez un casino, un droit de mutation, une taxe de séjour, toujours la même chose, hein. Les chiffres 2023, c'est du prévisionnel, 2022, c'est du réel, c'est volontaire.
Prévisionnel, prudent.
Prudent, toujours prudent, hein, on est dans des recettes, par définition, on est prudent. Si on prend les droits de mutation, vous les voyez, la courbe quand même, il y a eu une courbe avec effectivement une pointe en 2021, en 2022. Je vous rappelle le contexte, si vous lisez l'Europe, dedans on a aujourd'hui des taux d'emprunt qui sont en augmentation, donc un immobilier qui va sans doute se tendre un petit peu puisque ça va limiter certaines acquisitions. On n'aura pas tout de suite l'effet négatif ou du moins une valeur qui reviendrait un petit peu correcte, parce qu'on sait qu'on a eu des valeurs sur l'immobilier qui se sont un peu envolées ces dernières années derrière, donc ça risque de stabiliser, peut-être de diminuer, je pense plus stabiliser chez nous. Donc on a fait une prévision en termes de droits de mutation à 1 000 euros, mais qui était déjà cette prévision l'année dernière, même si on a eu 1 412 000, oui, parce que 1 000 euros, c'est pas beaucoup, 1 412 000 euros l'année dernière. On prévoit 1 million, on reste sage derrière parce qu'on ne sait pas les retournements. Par contre, vous avez pu voir que le casino qui avait relativement souffert du Covid avec les fermetures automatiquement, hein, puisque les jours d'ouverture étaient quand même nettement moindres, a retrouvé, et là c'est plutôt une belle surprise qu'on a eue pour 2022, 800 000 euros de taxes de jeu, alors qu'on avait été beaucoup, beaucoup plus pessimiste. On est resté sur le même linéaire pour 2023. Les premiers chiffres que nous avons sur le début de l'année, même si je vais juste vous rappeler que l'année bilan d'un casino commence le 1er novembre et termine le 31 octobre, donc on peut avoir des décalages par rapport aux chiffres que nous avons sur une année civile. On est resté sur une base de 800 000 euros. Pour l'instant, les premiers chiffres du casino sont encore infavorables. Alors, plus du tout la même croissance qu'entre 2021 et 2022, mais ça c'est logique, mais reste relativement dynamique pour l'instant. Sur la taxe de séjour, excusez-moi, on a mis 700 000 euros. Pourquoi 700 000 euros? On a bien vu aussi, pareil, effet Covid, ainsi de suite. On a, sur une année 2022, 870 000 euros qui a été encaissé. Je parle bien d'un encaissement, puisque c'est un peu plus en termes de normalement de collecte. Pour l'instant, c'est qu'en encaissement, on a toujours un petit décalage qui se fait avec les années N-1. J'expliquais ça cet après-midi en CODIR de l'Office du tourisme. On a prévu, en étant prudent, sur une base de 700 000 euros. On peut continuer. Vous avez le budget principal des dépenses de fonctionnement, le personnel, musée compris. Hein, dedans, vous avez effectivement l'effectif budgétaire et l'effectif pourvu en équivalent temps plein. Vous voyez que c'est relativement maîtrisé et relativement stable, même s'il y a quelques variations. Derrière, l'État se désengage de différents services et nous les redonne en général très peu compensés. Je vais penser tout simplement sur les cartes d'identité et les passeports. D'ailleurs, je vais juste, j'ai pas le trésorier là, mais ça n'empêche que je vais juste faire une petite chose. On est quand même que sur notre territoire d'ACTA, trois communes à avoir pris cette compétence là, qui est Carnac, Auray et Pluvigné, alors que vous avez des communes comme Quiberon ou Belz qui sont des chefs-lieux de canton et par définition ont une dotation globale de fonctionnement plus importante que la nôtre. L'État nous compense à peu près à la hauteur de 8 à 9 000 euros par an pour ce service que nous fournissons à leur place. Aujourd'hui, il faut savoir, sur notre commune, c'est une personne à temps complet. Donc, c'est pas, ça coûte pas, une personne ne coûte pas ce prix-là. Sur le fonctionnement, vous avez le petit tableau, je reprends toujours 2014, ainsi de suite, les charges de personnel réelles, les frais généraux, les subventions, contributions, les frais financiers. Toujours la réalité et effectivement le prévisionnel, si effectivement toutes les prévisions arrivent. Alors dans les frais de personnel, on monte à 4,790 millions. À un moment, depuis plusieurs années, on a toujours un petit débat à ce niveau-là entre ce chiffre-là. Alors là, je vais être aussi pareil, oui, sans doute pessimiste. On n'y est jamais en réalité, puisque l'année dernière, en BP, on avait prévu à peu près 4,5 millions. Vous voyez, on a terminé à 4,168 millions. Voilà, c'est toujours une volonté de se couvrir derrière. La même chose pour les frais généraux, les subventions, contributions. Effectivement, vous retrouvez derrière. Alors, l'écart des subventions, contributions, je vais essayer de vous donner l'information derrière, parce que là, elle est importante. Et je ne l'ai plus dans la tête, pour être honnête. C'est des choses qui arrivent aussi. Fatigue. On a donc un BP qui effectivement évolue, mais ça, je vous l'ai dit, pour les masses salariales, entre autres. On a aussi une mise en place de différentes petites choses qui nous ont été demandées. Dans les subventions contributions, voilà pourquoi j'ai retrouvé ma petite note qui va vous permettre de vous donner. Effectivement, la M57 a fait changer effectivement certains postes. Et vous avez le CCAS qui est arrivé dedans. Vous avez effectivement le musée aussi qui est arrivé là et qui fait grimper, qui était à d'autres endroits avant. Sur les dépenses de fonctionnement, le budget prévisionnel, charges de personnel réel, donc vous voyez, je vous les ai remises là. Là, on était sur des charges de personnel, qui étaient en BP, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui vous redonne, même dans les subventions et contributions, de revoir ce qu'on avait prévu l'année dernière en BP à 2 234 et qu'on a, en fin de compte, cette année, on est à 2 338. Alors, effectivement, on est beaucoup moins, je vous ai expliqué, tout simplement, pour ce petit problème de juste analyse comptable. Le profil de l'extinction de la dette, comme on l'a vu lors du compte administratif, hein, donc là, on va jusqu'à l'extinction. Donc on a vu qu'en 2022, on était à 3 millions 8, effectivement. On va descendre en 2023 à 3 millions. Elle est en train de s'éteindre. On a 6 emprunts. On en a 2 qui arrivent à échéance en 2023. Il nous en restera 4 autres. Dans les 4 autres, les 2 arrivent à 2025, dont l'emprunt qu'on avait renégocié. Je vous rappelle, on avait un emprunt structuré et volontairement, lors des petits problèmes, des emprunts, comment on les appelle, pas structurés, mais les autres, toxiques, merci. L'État avait mis en place une possibilité de renégocier, y compris les emprunts structurés, et on a sollicité une renégociation de cet emprunt-là pour qu'il soit stable et qu'on ne prenne aucun risque. Et les 2 autres emprunts qui restera après 2025, ce sont les 2 emprunts qui ont été contractés pendant l'ancien mandat. Un pour la cantine, la nouvelle cantine scolaire, et les autres pour les réfections de l'office du tourisme du bourg et l'office du tourisme de la plage. Ce qui nous permet de voir l'encours de la dette en recettes réelles. Donc vous retrouvez, hein, vous avez ce qui est en 2022, les recettes réelles à 14 274, une dette à 3 8 millions. On fait partie pour ceux que vous avez entendu ce qu'a dit le trésorier il y a 15 jours, maintenant un peu plus, 3 semaines, qu'effectivement, l'endettement de la commune, on est plutôt une commune très, très, très peu endettée et avec des marges de manœuvre plutôt importantes sur, effectivement, la CAF que dégage la commune. Les APCP, donc ce sont les anciennes APCP, c'est des autorisations de programme et des crédits de paiement qui avaient été faites sur le mandat précédent et qui se sont effectivement soldés. Il y a toujours des reliquats et qui arrivent à se solder un peu tard, puisque le bourg et liaison, restaurant scolaire, le rond-point du Nignol et le boulevard de la plage. Pour mémoire, vous avez les AP qui ont été votés et, excusez-moi, vous avez le total réel qui a été dépensé. Sur les investissements des nouvelles autorisations de programme et crédits de paiement, alors pourquoi une autorisation de programme et un crédit de paiement, je vous rappelle, ce qui permet d'éviter que, autrement, si vous ne faites pas ça, vous êtes obligé de monopoliser et de budgétiser la somme globale, même si elle est sur plusieurs années, tandis que là, ça vous permet de monopoliser que la somme que vous avez besoin sur l'année qui est en cours ou qui viendra. Les eaux pluviales de Saint-Colomban, qui vont être terminées et qui sont quasiment terminées, Gérard, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur Saint-Colomban avec le bassin d'Orange et ainsi de suite. La rénovation du complexe sportif du Ménec avec le skatepark, donc les études qui ont été lancées, et avec la première tranche qui sera effectivement cette année, puisque ça va s'étaler sur plusieurs années pour pouvoir toujours bénéficier de notre complexe sportif et de pouvoir l'utiliser tout le temps. Sur les investissements infrastructures, alors là, on globalise un petit peu, parce que le détail est un peu compliqué. Vous avez sur la première ligne les travaux de réseau. Vous connaissez, si vous êtes sur Carnac, que ce soit plage, bourg, il y en a un peu partout, un peu campagne, parce qu'on va arriver aussi sur le Runel. Ce sont les travaux de rénovation des réseaux qui ont été entrepris par ACTA derrière. Et à chaque fois, on en profite tout simplement d'enfouir les réseaux secs. Hein, ACTA refait réseau d'assainissement ou ce que vous avez sur la route aujourd'hui dorée d'eau potable et derrière nous on en profite effectivement pour enfouir les réseaux secs, c'est-à-dire tout ce qui est l'électricité et le téléphone derrière. Sur les acquisitions foncières, vous avez une ligne à 4 millions, donc ce sont des acquisitions foncières qui vont avoir lieu, entre autres un programme sur la plage pour l'ancien monsieur bricolage qui arrivera en 2024. Sur 2023, on est sur des acquisitions foncières. Je vais me repérer aussi. J'ai pas ma souris aujourd'hui, donc je suis avec mes petites choses. J'ai juste besoin que je vous redonne tous les détails. On a des acquisitions, pas trop de détails, d'accord Olivier, je vais faire court, grosso modo, on est en train d'acquérir du foncier sur la zone de Montauban pour le centre technique municipal, les terrains, une dépollution qu'on a mis là pour le programme qu'on a d'habitat sur le Runel, ainsi de suite, et effectivement toujours la problématique qu'il y a dans cette ligne-là sur l'attente de l'autorisation pour le camping des Pins, camping qui a pour but de pouvoir à terme recevoir des saisonniers. La politique de l'habitat, vous la connaissez, c'est des programmes qui sont en cours. J'en ai parlé d'un qui est là-haut, mais qui va redescendre derrière. Et Bélane Bellevue, sur lequel on travaille, qu'on devrait aboutir, puisqu'on était en réunion avec monsieur le maire. Mais je laisserai monsieur le maire en parler s'il veut en parler un peu plus loin. Les travaux de voirie, c'est l'entretien des voiries qu'on a. Les travaux sur les bâtiments, on a différents bâtiments assez importants avec une je le trouve plus, Gérard, il va m'aider pour énergétique, voilà, réhabilitation énergétique, excusez-moi. Ouais, j'ai des trous, là. Préservation, développement durable, c'est tout ce qui est les chemins, les pistes cyclables. Et là, on a aussi un programme de travail derrière qui viennent en complément de ce qui est fait, oui, effectivement, sur les voiries. Les pistes cyclables ne sont pas dans cette ligne. Voilà, tous les pistes cyclables ne sont pas dans cette ligne. C'est pour ça que je parle bien en complément. L'aménagement de terrain, bon, ça, c'est du classique qu'on a. Le patrimoine d'entretien, c'est le petit entretien qu'on fait. L'aménagement de la place du marché, c'est la finition de la place du marché sur les problématiques de mise en place d'eau, d'électricité sur la place du cimetière et le devant de la médiathèque en même temps. Sécurité, borne incendie, c'est du classique. PLU, AVAP, PCS, c'est toutes les études qu'on l'État nous oblige à faire et donc qui sont budgétisées à ce niveau-là. Et je rappelle, hein, ça reste toujours qu'un prévisionnel derrière. Les investissements matériels, on a l'éclairage, ce sont tous les bornes électriques, les candélabres qu'on change derrière. Donc, s'il y a un PPI, en général, vous retrouvez les mêmes choses. 2022 était un peu plus fort, parce qu'il y a eu un rattrapage par rapport aux années Covid, tout simplement. Mobilier urbain, panneaux signalétiques, bah, c'est du classique, tous les ans on en a. C'est pour ça que vous avez des lignes qui sont quasiment similaires, sont juste réajustées quand on donne un peu plus d'informations. La communication, c'est juste ce qu'a besoin André, la demande d'André, pour pouvoir continuer à communiquer, à vous transmettre des informations. Le matériel de véhicule, c'est le renouvellement de l'ensemble du parc. Alors, pas l'ensemble du parc, mais c'est le renouvellement régulier des matériels dont a besoin le CTM. logiciel, vous avez tout ce qui est le problème de logiciel, je ne sais pas, matériel mobilier, dans les 201 000, vous avez un serveur pour la mairie qui pèse à la hauteur de 120 000. Médiathèque, ludothèque, c'est la continuité du développement de la ludothèque. Et médiathèque, livre, vous aviez avant, puisqu'on avait un programme depuis l'ouverture de la médiathèque d'achat de livres, et aujourd'hui on passe en fonctionnement. C'est pour ça que vous l'avez pu sur cette ligne-là, et j'ai quand même voulu la laisser parce qu'il y a une partie qui est sur 2022. Sur la projection principale de recettes, hein, donc vous l'avez vu tout à l'heure, virement de l'excédent en N-1, donc sur 2023, on va virer 2,6 millions, on prévoit en 2024 2,4 millions, sur 2025, on est un peu plus pessimiste à 1,9 millions et 1,5 millions en 2026, tout simplement, comme on a été écrit dans l'Europe, vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes énergétiques, aujourd'hui, avec la communauté de communes ACTA, Aurekibon, Terre-Atlantique, l'ensemble des communes du territoire ont bénéficié d'un contrat qui a été fait avec Morbihan Énergie, qui nous a garanti l'électricité à un prix. Ce contrat arrive à échéance à fin 2023, donc on sera aujourd'hui obligé de subir une augmentation électrique sur la base à partir de 2024 et qui va greffer, puisqu'on sait très bien que l'énergie va énormément grimper, que ce soit le gaz et l'électricité à ce niveau-là, et donc on a provisionné pour ça. Subvention de travaux, c'est une subvention qu'on peut avoir, alors ça reste complètement aléatoire, c'est par rapport à ce qu'on fait, et ainsi de suite. Il y a des travaux qui sont plus subventionnables que d'autres. Si on prend, entre autres, par exemple, une réfection au niveau d'une église ou d'un monument, on peut avoir beaucoup plus de subventions que sur une voirie classique de la commune, et on aurait plus d'aide sur une voirie qui peut être départementale. Donc ça, c'est un peu aléatoire, on les réajuste chaque année. Cession matérielle terrain, donc dedans, vous avez différentes cessions. Voilà, pour 2023, principalement un dossier qui existait depuis 2010, qui était un terrain qui se situait sur Saint-Colomban, qui aurait dû être cédé à cette époque-là pour des raisons de recours des riverains, de certains riverains, pas tous. Ça a mis un peu plus de temps. Le dossier est soldé aujourd'hui, donc il est libre de tout recours. Et l'objectif a été de proposer d'ailleurs ce terrain-là, la démarche à l'ensemble des riverains, savoir s'ils n'étaient pas intéressés. Le FCTVA, donc je vous rappelle, le FCTVA, c'est une recette qu'on reçoit, c'est-à-dire c'est le remboursement de la TVA que nous avons payé sur les investissements en N-1 que l'État nous rembourse et le met en recette d'investissement. Dans le, je répète toujours tous les ans, mais dans le privé, dans une entreprise, vous faites une déclaration de TVA, les plus et les moins, ou vous récupérez la TVA tout de suite sur l'investissement. Nous, c'est décalé sur une année et ça vient, je répète bien, en recette d'investissement. C'est une volonté de l'État. L'emprunt, là, la possibilité de pouvoir effectivement d'emprunter. L'objectif est, comme on a fait sur l'ancien mandat, c'est de pouvoir tout simplement emprunter sur des investissements fléchés derrière qui ont une possibilité de transfert de compétences. Voilà, parce que quand il y a un transfert de compétences, ça permet aussi de transmettre la charge, pas que l'actif. C'est juste une petite subtilité. Voilà. Et des recettes diverses, amendes de police, vous voyez, à son, c'est à peu près effectivement ce qu'on reçoit tous les ans.
N'hésitez pas à mal vous garer dans les rues de Carnac si vous voulez augmenter les recettes de la commune. C'était le message subliminal de Pascal.
Voilà, donc vous avez les prévisions, je vous poursuis si c'est le mien, hein, mais bon, effectivement, ça fait partie des choses. Et aussi bizarre, si vous payez un stationnement, on va l'avoir en recette de fonctionnement, une amende, on le rend en recette d'investissement. Ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrais pas vous répondre, c'est une subtilité du fonctionnement de l'État. Donc, grosso modo, vous avez le global un petit peu du prévisionnel d'investissement sur l'année 2023, avec une situation économique effectivement très incertaine qui impacte nos finances, l'ensemble des finances des collectivités, qu'on vient de noter une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en ayant la volonté de poursuivre nos investissements, puisque ça, c'est important. Le Covid ayant un peu freiné sur toutes ces années-là les investissements avec les problématiques. Donc, effectivement, il est important de pouvoir les relancer derrière. Le budget annexe du musée, puisque vous savez qu'on a un budget annexe, comme vous l'avez vu dans les comptes administratifs. Donc là, pareil, je ne vais pas vous refaire la même chose. Vous avez devant vous effectivement du réalisé et du prévu. 531 au niveau des dépenses réalisées, une subvention d'équilibre réalisée l'année dernière à 272, on provisionne 513, mais si on regarde, je pense qu'on a peut-être l'autre tableau aussi qui nous demande du BPVP, on va retrouver les mêmes choses. Voilà, 480, on s'est monté en 2020 à 561, mais je rappelle que la commune de Carnac a bénéficié sur l'année 2020 et 2021 d'une aide, il y a 12 communes qui étaient dans le département qui ont bénéficié d'une aide Covid, donc Carnac en a fait partie, sur un montant prévisionnel qui était à l'époque de 800 000 euros. Comme en 2021, l'année s'est mieux, il y a un calcul savant qu'ils font, c'est mieux prévu que ce, enfin, c'est mieux passé que ce qu'ils avaient prévu, on a eu réellement à peu près 650 000 euros d'aide Covid sur les deux années. Voilà. Et 260 sur les recettes prévues, 234. On a vu une baisse, bien sûr, en 2021 et tranquillement une remontée pour le budget annexe. Sur, effectivement, les dépenses, hein, vous avez des frais généraux à la hauteur de 168 000 euros pour 110 000 euros en réel 2022, toujours un prévisionnel pessimiste de 168 000 euros. Et, effectivement, une base de masse salariale de 563 qui inclut différentes choses à l'intérieur qui est aussi très qui est pessimiste puisque 374. Là, vous avez du BP à BP, hein, 444 l'année dernière prévue. Vous avez vu ce qu'on a réalisé, 553, 157, 168. On est dans des logiques d'évolution de la problématique de l'inflation. Les dépenses, alors là on est en investissement avec une petite subtilité. Je vous rappelle qu'on a lancé un projet sur le musée effectivement de rénovation qui s'est amené par une étude pour savoir ce qu'il y avait mieux de faire. Donc on est parti sur une logique de déménagement d'un nouveau musée. Donc on avait pris effectivement un cabinet d'études en 2021. Vous avez les dépenses et les recettes. En 2020, vous avez un peu plus de recettes parce qu'on a vu un bout de l'aide pour cette étude-là. Et en 2021, un peu moins. Et on avait toute la dépense en 2021. Sur 2022, vous avez une recette très importante. Il y a eu un appel à un concours d'architectes, hein, puisque c'est oublié, c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut absolument un concours d'architectes. La région nous aide sur donne des subventions pour ce concours d'architecte, et il en restait, notez bien, c'est important, ça nous aide. Pour l'instant, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, excusez-moi, je suis vraiment mauvais aujourd'hui, il en restait une queue de crédit, et ils nous l'ont donné, donc on l'a prise, hein, on n'a pas fait la dépense, mais on avait déjà le crédit, c'est bien la première fois que ça nous arrive, donc je tiens quand même à le signaler, on a mis du vert volontairement, pour vous voyez bien, pour une fois, c'est quand même du vert. Hein, mais je pense qu'ils vont la déduire de l'année prochaine, donc à un moment, on ne va pas rêver. Mais là, on l'a eu en avance pour une fois. Donc ça fait qu'effectivement, il y a une trésorerie positive en investissement pour le musée par rapport au lancement du projet de concours. Le projet du musée, on l'a débattu, on a expliqué plus d'une fois, monsieur le maire l'a expliqué, vous l'avez là en récapitulatif, le coût des travaux sur une base de 11 millions 485 000 euros hors taxes pour 13 millions 782 TTC, des frais de concours AMO, maîtrise d'œuvre à la hauteur, je vais parler en TTC, de 4 566 000, alors qui peuvent effectivement être en diminution là, puisque une fois qu'on aura le concours d'architecte sera lancé et ainsi de suite, notre cabinet va, et l'architecte qui sera retenu, va entrer en négociation avec lui sur la maîtrise d'œuvre et qui peut faire permettre de baisser effectivement ce montant qui est élevé. On a pris pareil prévisionnel, on est toujours pessimiste, on a une fourchette, on prend la plus haute. Option connexe à côté 564 et les aléas actualisation à 1 290. Pourquoi des aléas et actualisations? Bah, vous connaissez le contexte aujourd'hui de la matière première au niveau du bâtiment. Donc on a rajouté ça, ce qui nous fait un total de 20 202 000 euros TTC pour le projet du musée. Voilà les grandes lignes du DOB et du projet du mandat. Avec chaque année, quand on fera le BP, vous retrouverez effectivement, là vous avez les grandes lignes, je vous rappelle, hein, c'est juste un débat d'orientation budgétaire, on aura effectivement dans le BP le détail année par année derrière. Et le but est de pouvoir ajuster effectivement chaque année, comme on le fait tous les ans.
Donc, merci Pascal. Donc, pour résumer, enfin, parce que M. Lejean l'a rappelé, mais brièvement, donc, comme d'habitude, une gestion plutôt de bon père de famille. Hein, vous savez que les ratios et le trésorier payeur nous l'a indiqué lors de l'adoption du compte de gestion du compte administratif. La situation financière de la commune est très très bonne. Hein, ceci dit, il faut y veiller chaque année. Donc, pas d'augmentation de la fiscalité non plus, M. Lejean, communal. En 2023, c'est important aussi de le noter.
Et juste pour ajouter à Olivier, ce que tu viens de soulever, mais il faut savoir qu'on va être, il y aura beaucoup de communes sur notre territoire. J'ai juste parlé du territoire d'Acta, hein, je vais pas aller un peu plus loin, mais tu as beaucoup de tes collègues, Olivier, ou de nos collègues à nous, conseils municipaux, qui vont faire des augmentations effectivement de taxes foncières. Hein, derrière, parce que je vous rappelle aussi une petite subtilité pour ceux qui ont regardé bien dans les journaux, on n'a pas été classé en zone tendue, que effectivement nous avons différents députés qui nous demandent de pouvoir classer effectivement nos zones en zone tendue, ce qui nous permet de pouvoir dissocier, je suis en train de me tromper, de pouvoir dissocier le taux, l'augmentation ou la baisse. On va parler plutôt de l'augmentation de la taxe foncière bâtie par rapport à la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura si on est en zone tendue, ça permet de pouvoir augmenter que la taxe d'habitation. Et je vous rappelle que la taxe d'habitation, aujourd'hui et pour les années à venir, ne sera payée que par les résidences secondaires. Or, aujourd'hui, les collègues qui ont décidé, pour des raisons de pouvoir investir, parce que toutes les communes sont dans la même problématique sortie du Covid, ils ont besoin effectivement de rattraper un petit peu le retard pris, donc besoin d'investir, ont besoin de lever des fonds. Et là, cette année, ils sont tous obligés de lever l'impôt aussi bien sur la taxe foncière, donc pour l'ensemble des propriétés de la commune, hein, qu'elle soit résidence principale ou résidence secondaire, et la taxe d'habitation. Donc là, les deux vont être pénalisés. Si demain, on est déclaré en zone tendue, ça nous permettra de pouvoir faire effectivement...
En toute simplicité, on préférerait augmenter les impôts sur les résidences secondaires que sur les résidences principales. Voilà. Monsieur Luneau.
Et vous avez demandé à être classé en zone tendue ?
Tout à fait.
Ouais. C'est une démarche qui se fait
C'est une démarche législative, hein, c'est-à-dire que c'est aux députés de... Mais oui, j'en ai parlé avec Jimmy Parrain qui nous a posé la question et on lui a demandé d'intégrer Carnac s'il arrive à le faire. Alors évidemment, l'État est très parcimonieux dans sa délivrance de ce statut parce que ça coûte cher à l'État. Mais oui, on a demandé à l'être, ouais.
Chaque commune peut le faire indépendamment de sa communauté de communes.
Non, c'est coordonné. C'est coordonné au niveau de la communauté de communes. Mais voilà. Enfin, si franchement les communes balnéaires comme la nôtre qui ont des tels problèmes de logement ne sont pas en zone tendue, je ne comprendrais pas très bien l'intérêt de ce dispositif. Parce qu'enfin, on a toutes les raisons d'être dans zone tendue et hyper tendue. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce monsieur Luneau ?
Merci. Il y a un budget important qui est consacré à la rénovation, l'extension, quelque chose autour du complexe sportif et du skatepark. Une grande étude a été menée depuis juin ou mai 2021. Et sauf erreur de ma part, on n'en a jamais eu compte rendu de cette étude très importante et très ambitieuse. Et comme je n'ai manqué qu'un seul conseil municipal depuis le début du mandat, je me questionne.
Il y a eu des présentations faites à la commission enfance, jeunesse et sport. Vous y siégez pas, voilà. On pourra vous donner des informations complémentaires si vous le désirez, mais pas avant le mois de juin, avant qu'on ait fait le permis d'aménager, puisque sans cette vision-là, vous donner des informations extrêmement précises. Ce serait pas très, très
judicieux. On pourrait faire un conseil municipal d'ailleurs, non, Christophe ?
Avec grand plaisir. Ouais.
Je relève juste, je fais partie de la commission enfance-jeunesse et c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément le détail de ce qui va se faire sur le complexe sportif.
Vous avez fait partie des différentes commissions sur lesquelles on vous a présenté l'étude auprès de la population. On vous a présenté aussi la programmation, le cabinet qui était en charge de la programmation et les premiers résultats de cette programmation. Je vous les donnerai en temps et en heure au mois de mai, au mois de juin, pour pouvoir vous avoir une vision, oui. Comme pour les Quinacois, pas de souci.
C'est vrai qu'on a le nom du cabinet, mais on n'a rien eu au niveau du détail, quand même, il ne faut pas exagérer. Enfin, en fait, on ne sait rien quand même de ce qui va se faire.
Ben, vous saurez, pas de souci.
Monsieur Huneau.
Et on peut avoir un petit avant-goût de l'emplacement du skatepark? Le tant attendu skatepark, le premier skatepark, j'ai regardé la presse
il sera au complexe du
Une Munich. Fois par an, il y a un article sur le skatepark. Le skatepark arrive, le skatepark est étudié, le skatepark est. Et là, il atterrit où?
Non, il sera au complexe du Ménèque.
D'accord. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il serait livrable quand?
En fait, Madame Le Golvan.
Oui,
on trépigne, pardon, il serait livrable quand le skatepark?
Plutôt possible.
Waouh!
Madame Le Golvan.
Alors, des remarques. C'est vrai que dans vos fondamentaux, vous dites que vous voulez maintenir un investissement d'un minimum de 4 millions d'euros par an. Pour 2022, on a eu 2 millions 356, pas exactement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu un ralentissement?
Le ralentissement, il est très simple. Hein. C'est la période Covid qui a... ce que vient de dire Monsieur Luneau... L'échange qu'il a avec, effectivement, M. Richard, c'est que tous les projets ont pris du retard. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé pas aller à la même vitesse. Et c'est toute la problématique de l'ensemble des communes suite au problème du Covid.
Oui, je voulais revenir sur les APCP, donc les anciennes qui étaient en place. On a le montant, donc y compris ajustement, et j'aurais apprécié qu'on ait le montant initial, ça permettrait de...
Vous l'avez sur le pour mémoire, les APCP qui ont été votés, y compris ajustement.
Oui, voilà, j'aurais souhaité qu'on ait sans ajustement, puisque la maîtrise des dépenses publiques, c'est quand même un sujet qui est d'actualité, et donc qu'on puisse faire la comparaison entre le budget initial, savoir s'il a respecté ou s'il y a eu un dépassement, qu'on ait les explications...
D'accord. Alors, je pense qu'on n'en parle pas tout à fait la même chose, mais je vais juste revenir. Quand on parle d'ajustement, c'est une fois qu'on a lancé la maîtrise neuve et qu'on a les chiffres définitifs, le départ n'est qu'un prévisionnel qui a été émis par les services de la mairie avec les services financiers. Et on a pour ouvrir une APCP qui nous permettait de pouvoir lancer l'appel d'offres et d'avoir les prix justes. Et donc... Quand on a eu les prix justes, c'est pour ça qu'on parle d'ajustement, il y a des APCP où on a terminé en dessous que ce qui était prévu. Sur l'exemple du boulevard de la plage, derrière, alors il y a eu, je vais prendre ça comme exemple, on a entendu du 4,5 millions, du ci, de ça, voilà, donc déjà, de quel chiffre qu'on parle et comment on parle. Quand on a parlé de 4,5 millions, c'était le reste à charge qu'il y avait pour la mairie derrière et pas le coût global de départ. Je vous rappelle que dans le boulevard de la plage, il faut rajouter aussi tout ce qui était les travaux du PPRL qui ont été inclus dedans, puisqu'à un moment, quand on a fait la PCP, on n'allait pas en faire non plus plusieurs, on a globalisé. Mais vous pouvez retrouver ça dans les anciens documents des anciens conseils, vous avez tout le détail. Hein.
Oui, justement, c'est derrière. Comme on a voté plusieurs fois des ajustements à la hausse ou à la baisse. Je pense qu'avoir le montant initial, ça permet de...
Alors, la PCP où vous avez voté, où il y a eu des modifications sur une des APCP, c'est l'APCP qui nous a posé effectivement plus de problèmes par rapport au départ qu'on n'avait pas bien identifié exactement. C'est celle de la problématique des eaux pluviales de Saint-Colomban où il a fallu rajuster pour effectivement cette APCP-là à 1,1 million qui au départ était effectivement en dessous et on a fait deux modifications sur cette APCP-là. Et c'est celle-là, je pense que vous en souvenez, qui a plus marqué. C'est la seule qu'on a dû faire deux ajustements, parce que moi aussi ça m'a un peu chagriné, voilà, mais c'était compliqué puisque le bassin d'orage est arrivé par la suite, qui était obligatoire et que c'est de la technique un peu spécifique. Et je vous rappelle qu'on est un endroit qui est pas simple à cet endroit-là, et il fallait vraiment faire quelque chose.
Oui, je pensais aussi à celle du boulevard de la plage qui, il me semble, au départ était à 6 350 000.
Oui, possible, donc je dis pas. Je pense que oui, derrière, on a dû avoir quelques aménagements en plus. Oui, je vais, oui, sur là-bas, je pense que c'est ça, tout à fait. Et derrière, on a eu quelques aménagements qui sont, entre autres, des aménagements type qu'on a rajouté, soit des coffrets électriques, ainsi de suite, pour pouvoir recevoir des animations, pour pouvoir vraiment utiliser le boulevard de la plage et tout ce qui était aussi rack à vélo, vous avez vu, et on en a encore besoin d'en mettre et ces différentes chambres qu'on a profité de les remettre dans la PCP. C'est ce qui explique la différence que vous avez.
Madame Le Golvan, vous avez retrouvé votre prochaine question ? Ah bon, d'accord. Non, mais je vous voyais chercher dans vos... Donc, pourquoi je vous repasse la parole ?
Il y a plusieurs annotations. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc la ligne charge personnel, donc on voit qu'entre 2021 et 2022, on a eu une augmentation d'à peu près 400 000 euros. Qu'est-ce qui justifie en fait cette progression, surtout que c'était maintenu toujours à peu près à l'identique depuis toutes ces dernières années?
Alors je vais vous répéter, ou peut-être, non elle n'est pas là, excusez-moi, je vais répéter toujours le point d'indice, l'évolution derrière et tous ces problèmes-là, des remplacements de congés maternité, des départs en retraite, donc des doublons à un moment qui a fait qu'effectivement ça a monté. Aujourd'hui, quand vous regardez une masse salariale de 2015, pour prendre celle-là et vous l'amener jusqu'à 2021, qui est quasiment identique, avec des variations à la virgule près, il y a un moment ou un autre, la commune de Carnac a évolué, on l'a fait évoluer tous ensemble, et aussi, il y a besoin de pouvoir répondre à la demande des citoyens.
Je pense, Madame Le Golvan, ce qui est anormal, c'est pas tellement l'augmentation de 400 000 euros, ce qui est anormal, et c'est même la performance, et Monsieur Lejean, enfin, je pense que c'est toute l'équipe, la performance, c'est d'avoir été capable... J'imagine que vous regardez de temps en temps les masses salariales des autres communes. Auray, leur masse salariale a augmenté de 2 millions d'euros, par exemple, au cours des deux dernières années. Donc ce qui est assez incroyable, et je crois que nous sommes un cas unique dans l'intercommunalité, c'est d'avoir été capable de maintenir une masse salariale à peu près au même niveau entre 2014 et 2022. Et je pense que cet exercice, il ne peut pas être maintenu indéfiniment, parce qu'il y a un moment, il y a des augmentations, les points d'indice, hein, on les a tous à peu près assimilés pendant quasiment 6 ou 7 ans. Il y a un moment, voilà, c'est plus possible, et donc j'espère qu'on va réussir à garder cette bonne ligne, hein, et pas augmenter, mais il y a eu un rattrapage, effectivement, qui était nécessaire. Et puis par ailleurs, on a besoin d'autres compétences, on a embauché des gens dans le domaine de l'environnement, notamment, voilà, c'est des compétences qui sont très recherchées, il faut les payer. Les collectivités territoriales ont le même problème que beaucoup d'entreprises en ce moment, c'est-à-dire que c'est très difficile de recruter, et c'est normal, les candidats font monter les enchères, donc on embauche. On a du mal à trouver les compétences, et quand on les trouve, les gens sont assez exigeants et demandent un peu plus. Donc voilà, je pense que ce que monsieur Lejean, il est très modeste, ne dit pas, mais c'est plutôt la performance 2014-2021 qui est, encore une fois, hein, je vous invite à regarder les masses salariales des autres communes, qui est unique, et ça, on peut pas le faire pendant 20 ans, c'est pas possible.
Et d'ailleurs, pour finir à ce qu'a dit monsieur le maire. Si vous avez écouté ce qu'a dit le trésorier l'autre jour, on est toujours dans des coefficients complètement en dessous de nos strates et relativement en dessous de nos strates.
Oui. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que vous prévoyez, donc là, on est peut-être le réajustement, mais tous les ans, vous nous dites que c'est le point d'indice, qu'on essaie en fait de maintenir, enfin, depuis toutes ces dernières années, en tout cas, de maintenir le coefficient qu'il y avait jusqu'à présent, qui était 38% à peu près, on est passé à 42, c'est ça?
Oui,
à peu
alors
près.
Après, c'est une variation par rapport aux frais et ainsi de suite. Hein, c'est, la comptabilité
a changé aussi, la base de calcul.
Tout à fait, mais oui, là, on a une progression, mais de toute façon, vous savez, 38, c'est...
38%, vous regardez l'ensemble des communes sur notre pays, je vais être clair, c'est même pas notre territoire, et vous revenez quand vous en avez trouvé une qui a 38.
Non, mais là, on parle de notre commune.
Non, non, mais, mais juste je veux qu'on compare ce qui est comparable, comme l'a dit monsieur le maire et l'a répété, effectivement, je ne l'avais pas mis en avant parce que je ne souhaite pas, c'est plutôt comment avez-vous pu maintenir cette même masse salariale pendant tant d'années avec toutes les contraintes qu'on vous a amenées, dont celle que je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement, rien que la problématique pour les passeports et les cartes d'identité. Là, on a quelqu'un. Vous venez à l'accueil aujourd'hui à Carnac. Il y a une époque, Ils étaient deux, c'était plus possible, ça pouvait plus fonctionner, c'était pas logique. On l'a renforcé, on a eu effectivement les passeports à quelqu'un qui est venu, on a ramené quelqu'un, il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu, parce que le citoyen, ben, il y a un moment, il a une demande, et on doit être capable aussi de pouvoir répondre. Je vous rappelle, hein, souvent je dis, j'ai peut-être vous choqué, tout le monde, et y compris mes collègues, mais vous avez mis un euro, je suis parti. Souvent je dis, la collectivité, c'est un peu comme une entreprise, on est une entreprise de service, au service des citoyens. Et cette entreprise, elle appartient aux citoyens. Il y a un moment, on doit qu'elle soit bien gérée et qu'on puisse répondre aux citoyens. Or, des entreprises de service, même dans le privé, quand vous prenez des ratios, 38%, vous ne les avez pas. C'est juste ça que je veux vous donner. Et voilà. Et effectivement, vous soulevez, parce qu'il y a une augmentation, et pourquoi, à un moment, il a fallu aussi, par rapport aux agents, à l'équipe, parce que j'estime qu'on est tous une équipe, que ce soit les agents et les élus, derrière, ils ont quand même, pendant X années, où il y a un moment c'était moins facile, mouillé la chemise, suivi. Aujourd'hui, on a quand même donné l'attractivité à notre commune, et effectivement, il y a des demandes supplémentaires sur lesquelles on doit répondre, et souvent, vous nous demandez d'ailleurs aussi comment se fait-il qu'on ne peut pas répondre à telle et telle chose, que ça serait bien de mettre en place ou telle et telle chose. Ben, à chaque fois qu'on met en place quelque chose, ça a un coût derrière, automatiquement, pour pouvoir répondre. Mais qui est justifié, hein, vos demandes, des fois, complètement, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, et effectivement, ben, il y a un moment, là, on ne maintiendra pas en dessous de 4 millions, ça va être de plus en plus compliqué. Et il y a une logique, hein, l'État nous a donné 7,1% d'évolution, aujourd'hui a décidé 7,1% d'évolution pour 2023 sur les valeurs locatives. Il ne faut pas rêver, on va les retrouver une la même partie, à minima, dans les points d'indice. Hein. On pourra nous faire de cadeaux. Hein.
Juste, on a embauché à peu près, pas tout à fait 10 personnes, mais une dizaine de personnes supplémentaires pour justement répondre aux différents services.
Oui, alors après, il y a souvent des doublons qui font qu'il y a des variations sur les services. Pardon, excusez-moi.
Voilà, il y a souvent des doublons et après, on essaye d'établir et de répondre toujours à la demande sur, par exemple, un service, je vais prendre le mien, mais il y en a plein, il y a Olivier, il y en a plein derrière pour répondre. Je peux prendre celui de Catherine à côté sur les ludothèques. Pour faire une ludothèque, il nous faut bien quelqu'un. Autrement, ça ne marche pas. Est-ce qu'il fallait qu'on fasse la ludothèque ou pas? Ça, voilà. Mais dès qu'on décide de faire la ludothèque, il nous faut bien quelqu'un.
La police municipale,
sur la sécurité, mon service sur le développement économique, où à un moment, je faisais les courriers, je faisais tout avec Delphine. Il y a un moment, ben, on a besoin de structurer. Enfin, Yann qui connaît bien derrière. Voilà, on avait besoin d'avoir un minimum. Autrement, j'étais plus capable de répondre correctement, effectivement, aux citoyens ou aux professionnels de notre territoire.
Merci. Est-ce que... Non ? C'est bon ? Concernant donc aussi les futurs travaux, donc on voit acquisition foncière. Donc vous avez énuméré tout à l'heure, c'est donc dans les 1 741, en tout cas pour 2023. Vous commencez par quoi ? C'est monsieur bricolage ou le camping ? On en est où avec le camping d'ailleurs ?
Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, clairement, on est sur le camping, on attend tout simplement d'avoir effectivement, on a échangé avec le syndicat de l'hôtellerie de plein air, on en a encore discuté, et avec le préfet. Mais...
garantie de l'État pour savoir si on peut remettre en route ce camping. Et donc, parce qu'on ne va pas acheter quelque chose dont on n'est pas sûr de pouvoir en faire un camping. Donc, tant qu'on n'a pas cette garantie, ben on ne bouge pas sur le camping.
Donc, dans les 1 741, ce n'est pas forcément le camping. Ce serait plutôt Monsieur Bricolage. C'est plus...
Il faut une enveloppe pour être capable d'exécuter. Parce que s'il n'y a pas d'inscription budgétaire, on ne peut pas le faire. Donc, on a mis une enveloppe qui nous permettra... si c'est le camping qui vient en premier ou si c'est le bricomar qui vient en marché, de pouvoir faire l'opération. Mais aujourd'hui, je ne sais pas lequel sera fait en premier. C'est juste l'enveloppe pour être certain d'avoir les crédits, parce que sinon, on va être obligé de faire une décision modificative. Pascal déteste les décisions modificatives, donc il faut une enveloppe suffisante.
Il déteste, mais il y en a pas mal. Hein.
Madame Le Golvan.
Il y en a eu trois l'année dernière, quand même.
Là, Madame Le Golvan, je veux dire...
Il y a eu trois DM l'année dernière.
Trouver une commune dans laquelle il y a trois DM par an... Non, mais encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Trouvez une commune dans laquelle il y a 3 DM par an, Madame Le Golvan, et revenez nous voir. Mmh. Okay,
ouais. Il était parti pour zéro. Enfin bon, la politique de l'habitat, donc 500 000 euros, là, c'est parce que vous prévoyez un achat de...
C'est pour la programmation de Bellevue, sur ce que, enfin, vous en faites partie de la commission, je crois, Madame Le Golvan, donc les échanges qu'il y a sur le programme Bellevue, Bellane, sur le problème du programme du Runel, et continuer à avancer avec ce qui est en cours au niveau du plan, Sylvie va peut-être pouvoir m'aider, du plan Habitat au niveau d'ACTA, et se donner les moyens, si demain on a besoin, de pouvoir faire du BRS.
Justement, on attend la présentation du BRS aussi.
Oui, hein. mais attendez, je suis comme vous. Voilà. Par contre, si je n'ai pas inscrit, comme sur la ligne au-dessus, dans toutes les lignes qu'elle a, si vous ne l'avez pas inscrit, on va se retrouver une décision modificative. Oui, je ne suis pas un fan des décisions modificatives. Il y en aura toujours, je vous rassure. Hein, je ne garantirai jamais zéro décision modificative. Ça, j'ai abandonné. Rien que pour des mouvements que nous impose la trésorerie. Et voilà, la politique de l'habitat, elle est là.
Ok.
Madame Le Golvan, terminé, puis après, Monsieur Luneau est pressé, mais vous aurez la parole après, Monsieur Luneau.
Concernant les recettes d'investissement, donc à la ligne cession matériel terrain, donc tout à l'heure, vous avez évoqué la vente du terrain de Saint-Colomban, puisque visiblement, les recours, ça y est, c'est bon. Il y avait un acheteur donc à l'origine, c'est plus le cas, c'est où, c'est pas là.
Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu d'acheteur. Il y a eu la volonté éventuellement de le céder, mais on n'est jamais allé jusqu'à trouver un acheteur. Aujourd'hui, les riverains seraient intéressés par l'achat. Parce qu'en fait, c'est un rond. Vous connaissez le terrain, Madame Le Golvan. C'est un rond qui est entouré de... Et chacun prendrait une part du camembert.
D'accord. Donc, quand je vois en 2023 1 805 000 qui correspond à cette éventuellement vente, ça veut dire que le Lidl ne fait pas partie de...
Mais dans l'année d'après, si c'est ça que question...
D'accord. Donc, dans les 3 211 000, là, vous prévoyez toujours, en fait, la vente de notre terrain des sports. Mm-hmm. D'accord. C'est bien avancé, justement, par rapport à... Vous
bougé.
En êtes où ?
Non, ça n'a pas bougé pour l'instant.
Alors, pas bouger, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ça n'a pas bougé. Par rapport à la dernière fois où on en parlait, il n'y a toujours pas de certitude que ça se fasse.
D'accord. OK. Bon, si Pierre Léon, tu veux y aller.
Monsieur Luneau ?
Je vous remercie. Au sujet de la ligne acquisition foncière, vous évoquiez le bâtiment de l'actuel Monsieur Bricolage avenue des Druides, le futur ancien Monsieur Bricolage, et le camping des Pins. Et ce sont deux questions qui passionnent les Carnacois et les Carnacoises. Est-ce que vous avez fait une proposition au camping des Pins ? Vous attendez un accord de l'État quant à l'utilisation du...
Monsieur Luneau, je viens de l'expliquer, je ne vais pas le redire.
C'était pas très clair, pardon. Ben, pardonnez-moi, mais...
On est d'accord sur le prix avec le propriétaire.
Ouais.
Et donc... On signera l'acquisition définitive quand on aura des garanties. D'ailleurs, quand on signera le compromis, il y aura une réserve. Et la réserve sera la possibilité de mettre en production un camping à cet endroit-là, autorisé et purgé de tout recours. Et donc, tant qu'on n'aura pas ça, on ne le fera pas.
Et la garantie de l'État, donc, de pouvoir continuer... L'État vous garantirait la possibilité...
L'État nous dirait que la DDTM nous dirait oui, on peut faire un camping à cet, on peut remettre en route un camping à cet endroit-là. Merci. Mais vous connaissez la problématique, on en a déjà parlé. Il y a une problématique liée à la littorale, un camping qui s'arrête quelques mois n'a pas forcément la capacité d'être remis en route. Donc c'est cette question qui est au cœur du problème. Si on peut pas le mettre en route, il y aura pas de camping des Pins.
C'est plus clair. Je vous remercie. Et quant au bâtiment de Monsieur Bricolage avenue des Druides, vous avez fait une proposition vendeur.
On est déjà d'accord sur le prix. Hein. Il faut juste qu'on conclue l'acte. On doit se voir dans les semaines qui viennent.
Et le montant, vous le connaissez
de mémoire, je l'ai pas, mais pour vous, de toute façon, ça passera en conseil municipal.
Oui.
Ouais. Ça passera en conseil municipal. C'est pareil. C'est un terrain constructible dont on va faire un parc. Donc, il ne va pas nous le céder au prix du parc. Hein. Il va nous le céder au terrain d'un prix constructible. Après, on verra bien la négociation. Mais oui, l'objectif, c'est assez rare qu'une municipalité achète du terrain constructible pour en faire une extension d'un parc. Mais voilà, c'est notre volonté, parce qu'on pense qu'un espace vert dédié aux circulations douces, c'est-à-dire éventuellement avec lesquels, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, des parkings à vélo, des choses comme ça, dans cet endroit de Carnac, c'est très important.
Oui, c'est original, oui.
C'est bon ?
Oui, merci.
Madame Le Golvan, d'autres points ? Mais écoutez, je vous remercie je remercie Monsieur Lejean pour la précision et les détails. Comme d'habitude, c'est toujours synthétique. Et encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Même quand il n'a pas de costume, voilà, la bonne gestion de cette commune lui doit beaucoup. Et donc, merci à Pascal. On passe à l'adhésion à la Fondation du patrimoine. Monsieur Buquin.
Merci, Monsieur le maire. La commune a depuis déjà un certain nombre d'années des relations informelles avec la Fondation du patrimoine. Nous vous proposons de formaliser ces relations en adhérant à la Fondation pour la modique somme de 500 euros. Alors, quel est l'intérêt de cette adhésion ? Monsieur Lejean expliquait tout à l'heure que dans des projets de rénovation, restauration de patrimoine municipal, comme l'église par exemple, la commune bénéficie de subventions de l'État, de la région, du département, mais une fois ces subventions reçues, il reste une part qui nous revient. Et l'un des intérêts de la Fondation du patrimoine, c'est d'être le support d'appels aux dons, donc de collecte de mécénat qui viendra réduire la part de la commune dans des financements de rénovation de patrimoine. Voilà, donc c'est l'un des intérêts d'adhérer à cette fondation. On pense à l'église Saint-Cornélie en particulier, où, si tout va bien, la part restant à financer sur les travaux à venir pour la commune sera entre 20 dans un cas parfait et 30 en principe pour 100, ce qui fait quand même un montant assez important. Et donc l'idée, c'est de réduire cette part-là grâce à du mécénat que la Fondation du patrimoine nous aura aidé à lever.
Merci beaucoup. J'imagine que tout le monde est d'accord. Unanimité pour ce rapport. Je vous remercie. Monsieur Oudois, on entame quelques rapports liés aux affaires scolaires.
Oui, c'est un petit marathon ce soir. Bon, c'est léger. Donc le premier, c'est la participation 2023 aux frais de fonctionnement de l'école privée Saint-Michel. Donc comme chaque année, vous connaissez le mode de calcul. On prend donc les coûts de fonctionnement de l'école publique qu'on divise par le nombre d'élèves de l'école publique, ça nous donne donc un coût élève qu'on multiplie ensuite par le nombre d'élèves de l'école privée. Et donc on arrive à la somme qui est indiquée, à savoir 137 756 euros et 82 centimes.
Un calcul auquel vous êtes habitué depuis de nombreuses années. J'imagine qu'il n'y a pas de questions, pure mécanique et arithmétique. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Participation 2023 aux frais de fonctionnement des écoles extérieures. Monsieur Oudois, toujours.
Oui, donc là, c'est un mode de calcul un petit peu différent, mais qui concerne en fait les élèves carnacois qui sont scolarisés dans des écoles extérieures à la commune, en général, enfin bien souvent pour des raisons de handicap notamment. Donc là, il y avait une petite erreur dans le bordereau qui vous a été remis. Ah, je vois que Tom ne l'avait pas noté cette fois-ci. En fait, il y a eu un malencontreux copier-coller.
Il va falloir se reprendre, hein. Je suis désolé, mais...
En fait, les montants qui sont soumis au vote sont ceux qui figurent sur le tableau, si on peut l'afficher. Et donc, du coup, ce sont bien les montants donc de 424,16 euros pour l'élémentaire et 608,79 euros pour les maternelles. On a fait un copier-coller des années précédentes et on ne l'a pas vu lors de l'envoi.
Parfait. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. On passe... c'était même pas un marathon, c'était une petite randonnée en claquette. Alors, on passe aux affaires sportives. Christophe Richard, une subvention exceptionnelle à un brillant et jeune sportif carnacois.
Oui, on espère que ce carnacois ira au JO 2024. L'année dernière, vous aviez déjà voté une subvention. On a décidé sur trois ans jusqu'à 2024, de l'accompagner dans son parcours à la recherche d'une qualification olympique.
dans une discipline para-équestre, hein, puisque Oxens 15-0 est handicapé. D'accord. Et donc on a trouvé que c'était plutôt une bonne idée de l'accompagner dans son projet, hein, para-olympique, et d'avoir potentiellement un Carnacois présent au JO de 2024 à Paris. Et puis ça nous permet aussi à la commune d'avoir un vecteur de communication autour du handicap et du sport, puisqu'il nous aide à préparer des articles à ce sujet. Et donc bon, l'idée est évidemment de soumettre à votre vote ce budget exceptionnel qui sera sans doute reconduit aussi l'année prochaine.
Ouais. J'ai croisé Oxens lors de ma pérégrination vélocipédique du dimanche matin. Il est à fond. Il était en train de s'entraîner à Carmario sur le et donc j'ai discuté 2 minutes avec lui. Et vraiment, enfin voilà, il a un rêve olympique et c'est pas un rêve. Il est vraiment dans voilà. Ils sont 2 ou 3 qui peuvent être sélectionnés et il a vraiment plus que ses chances.
Ouais, il a ses chances et c'est un vrai marathon pour y accéder. Mmh. Hein, et c'est aussi beaucoup d'argent pour lui et sa famille.
Bon. J'imagine que tout le monde est d'accord pour aider un jeune Carnacois particulièrement méritant, à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Marc Albert, une convention de partenariat avec la clinique vétérinaire Saint-Michel de Carnac pour la prise en charge des animaux errants ou blessés trouvés sur la commune, notamment les chats qui se multiplient dans certains quartiers, le mien notamment.
On avait fait ça.
Non, les chats. Et puis en plus, il y a des. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui viennent les nourrir. C'est... Ah bah voilà, Charles. Charles. Ta place t'attendait. Non. Le quorum était là, donc écoute. Et puis on a presque fini, hein, mais bon, c'est sympa de te voir.
Donc oui, on avait fait ça il y a quelques années, de mettre en rapport avec la clinique vétérinaire pour stériliser les chats qui sont un peu partout dans la commune. Ça s'était un peu calmé, là ça reprend fortement. Donc on va faire une convention avec...
Le problème, c'est qu'avant, on avait une association, je ne sais pas, Madame Le Golvan s'en souvient, hein, puisque oui. On avait une association qu'on finançait, ouais, chats citoyens qu'on finançait et qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne.
C'est une obligation,
donc il faut vraiment que... Parce que là, les chats... En plus, c'est j'adore les chats, j'en ai moi-même 2, qui se battent d'ailleurs avec... Les chats citoyens, mais c'est la principale cause du déclin des oiseaux en zone urbaine, ce sont les chats.
Donc il y a une association à Quiberon à laquelle on avait demandé de se rapprocher de nous, mais ils ont tellement de travail entre Quiberon, Saint-Pierre et Kerostin qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher de nous. Donc on est en train de... La convention a été faite. Les gens qui porteront les chats pour les faire stériliser... Il faudra qu'ils passent d'abord par la police municipale et puis après qu'ils passent par la vétérinaire. La vétérinaire vérifiera si c'est des chats sauvages ou pas sauvages. Parce que je pense qu'elle est un peu plus habituée que nous.
Il y a des gens qui essayent de faire stériliser
leurs chats en faisant payer par la commune. Donc ce sera contrôlé. Et puis on est en train de voir avec une SPA de Vannes s'il y a moyen de faire récupérer les chats, de les mettre dans une fourrière pour chats pendant quelques jours. Si personne ne les réclame, après... La SPA s'occuperait de les stériliser et après de les remettre à disposition des gens, ceux qui veulent en reprendre. Donc on en est là.
Monsieur Luneau.
Merci. Cette convention a été présentée en commission finance et je me suis abstenu parce qu'on n'avait pas eu la convention avant la commission. Et il fallait statuer dessus. Je l'ai lu depuis. Pourquoi est-elle datée du 23 mai 2020 et il y a... Par qui a-t-elle été rédigée ?
J'imagine que c'est une faute de copier-coller.
Elle
a été rédigée par les services, oui, pourquoi ?
D'accord. Oui, parce qu'on sent qu'elle n'a pas été rédigée par les plus fervents amis des animaux, notamment au sujet de l'écarissage plutôt que l'incinération. Et au niveau des tarifs, il n'y a même pas la distinction entre la stérilisation d'un chat, qui est une castration, et celle d'une femelle. Convention, elle est un peu courte. Et...
L'obligation, c'est par rapport au chat, pas par rapport au chat.
De stériliser ?
Oui.
Et vous comptez pas le faire ?
Pardon ?
Bah.
L'obligation qui incombe à la commune, c'est de stériliser les chats.
Oui.
Voilà. Et donc après, c'était quoi le reste de ta question ?
Eh ben, il y a les chats non stérilisés qui se promènent, et si tu as des chats...
Ah bah après, c'est sous couvert de chats sauvages. Et du coup, il y avait une dame qui s'occupait de ça.
Ouais.
qui faisait partie de l'association Les Chats Citoyens, Madame Bataille. Je ne sais pas si elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, mais aveugle.
Bon, qu'un chat. Excusez-moi, après, l'essentiel, c'est qu'il y a un dispositif
c'est
pour...
C'est quoi la question oui.
Parce que... Ah, c'est pas une question, c'est que je me demandais par qui avait été rédigée la convention, parce qu'elle est très, très succincte, elle n'est pas très bien rédigée. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour
lancer un appel ? C'est comme certains recours devant le tribunal administratif qui sont très mal rédigés,
c'est hyper
avec des fautes d'orthographe.
Est-ce qu'on en... L'écarissage, c'est quand même d'un autre temps. Aujourd'hui, on fait de l'incinération.
On trouve des animaux écrasés sur la route. Ouais. On va le porter à l'écarissage.
Est-ce qu'on en profiterait pour faire un appel dans la presse à des candidats, candidates pour l'association locale, effectivement, qui a disparu, l'association de Quiberon
monsieur,
qui...
Monsieur Luneau, mais on n'a pas attendu ça pour le faire. On est en contact tous les jours avec des gens et effectivement, on a sollicité des gens, sauf que les gens ne veulent pas le faire. C'est pas un appel dans la presse qui va changer grand-chose.
Pour avoir été aux associations quelques années et avoir, entre autres, discuté et travaillé avec Madame Bataille... si t'es volontaire, tu t'y colles.
J'en fais déjà pas mal, mais la question se pose.
Parce que c'est facile. Le Yaka Foucault,
non, c'est pas Yaka Foucault. Je pose la question. Est-ce qu'on a...
Elle était toute seule.
Ben oui.
Ouais. Et elle est toute seule. Et sauf que avec ses petites cages et avec Monsieur et Madame, je ne sais plus qui. Faribault, exactement. Oui, on les voyait régulièrement. Trois personnes pour s'occuper de tous les chats sauvages qui étaient dans le coin. Excuse-moi, tout le monde n'a pas envie de s'y coller. Hein. Ouais.
Mais la commune saurait aider les volontaires pour remonter l'assaut.
Pierre Léon, la commune subventionnait cette association par le passé quand elle existait. La commune va subventionner, dans le cadre de cette convention, la réalisation d'un certain nombre de stérilisations. On passe pas par une association, c'est tout. Mais si, comme tu nous l'avais promis, je me souviens du premier conseil municipal, tu nous avais promis de trouver des agriculteurs pour s'installer sur la commune, si tu nous trouves des volontaires pour monter une association et s'occuper des chats, on est preneurs.
Ouais. Parce que là, c'est pas une subvention, c'est vraiment payer les frais de vétérinaire pour de l'euthanasie, de la castration.
C'est la même chose.
C'était déjà le cas avant. La subvention était liée aux castrations qu'il y avait et aux euthanasies.
Donc ça revient au même, mais pour vous, vous pourriez aider. Vous seriez d'accord ?
Ah, mais évidemment.
D'accord.
On est d'accord, c'est une obligation.
D'autres questions ?
Et vous remettez la bonne date sur la convention ? Ouais. Non, mais
Ok, alors, autre question. Autre question.
C'est quand même pas très propre comme document, je veux dire, c'est...
Autre question.
Sur la convention.
Oui, sur la convention.
Ah ben, j'ai mes réponses, je vous remercie.
Parfait. Donc, on va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Parfait. Le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe à Monsieur Durand et l'acquisition des parcelles.
Oui, alors ce sont deux parcelles qui sont au nord du Ménec, deux parcelles qui nous ont été proposées à la vente. Je veux voir le plan, voilà, la 70-71 par monsieur et madame Guéranger, qui sont des propriétaires d'une maison qui se retrouve où c'est marqué BA. Voilà. Donc le coût, ils l'ont proposé à 15 000 euros.
Madame Le Golvan ?
Donc ces terrains, c'est pour créer des parkings, c'est bien ça ?
Pas forcément, il y a t'as de disposition, ça peut également pour faire du chemin. On est en prolongation du platelage, qui est juste un petit peu plus haut à droite. Il peut y avoir dessus, ça peut être du parking, effectivement. Ça peut pas être de la construction, comme vous savez, on est en zone NMA à cet endroit, et NMA, c'est stricte protection des monuments, donc des monuments mégalithiques, donc c'est pas possible de faire de la construction. C'est carrément de la réserve foncière.
À titre personnel, je ne souhaite pas qu'on en fasse un parking.
Non.
Je pense qu'il faut préempter, parce que sinon, ça pouvait partir ailleurs. Mais non, on ne fera pas un parking là.
Okay. Justement, on voit que tout est en train de se structurer par rapport au projet UNESCO. C'est-à-dire que là, on achète, vous l'avez noté, c'est dans le cadre du projet UNESCO, et de créer du stationnement. Vous l'avez écrit, c'est pour ça que je reprends les termes.
Non, mais
c'est tout. Mais au-delà de ça, puisque vous dites que vous ne ferez pas de stationnement, là, c'était marqué de créer du stationnement. Peut-être qu'il faut...
On se réserve la possibilité, mais à titre personnel, comme je le dis, je ne souhaite pas qu'on fasse de stationnement à cet endroit. Je n'étais pas obligé de vous le dire, Madame Le Golvan, sincèrement, je sincèrement, je pense qu'on ne doit pas faire de stationnement à cet endroit-là. Ce n'est pas le meilleur endroit. On a d'autres idées.
Oui, non, mais du coup, il ne fallait pas l'écrire tout ça.
J'avoue que c'était une idée de départ.
Parce qu'il ne faut pas obérer l'avenir. Et donc, il ne faut pas s'écarter cette possibilité. Encore une fois, à titre personnel, si une autre municipalité souhaite le faire, elle pourra peut-être le faire. Mais voilà. Moi, je n'y suis pas favorable.
Justement, on voit que c'est en train de, ça y est, de se structurer ou de se dessiner. Il y a tous les plots qui ont été mis sur, sur cette...
Alors, les plots, c'est provisoire. Hein, c'est...
Oui, c'est provisoire, mais bon, ça y est, on montre aux Carnacois quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que l'UNESCO arrive. Hein. Là, on achète des terrains. Est-ce qu'une réunion, justement, pour tout... déjà, le village du Ménec, qui va être quand même pas mal concerné par le projet, en tout cas. Et puis, les résidents alentours, hein, tout autour du Ménec. Est-ce qu'il y aura une réunion, justement, pour présenter... Parce que vous avez déjà une idée, non, de ce que...
On a déjà fait une réunion publique. Hein, vous y étiez, d'ailleurs, pour le Ménec. Mm-hmm. Alors, simplement une correction. La mise à sens unique de la route du Ménec... n'est pas lié à l'UNESCO. La route à sens unique la mise en sens unique de cet endroit-là, c'est lié à la sécurité. C'est-à-dire qu'on a eu un accident mortel l'année d'avant. Il ne vous a pas échappé que l'été, les parents et les enfants se promènent le long du grillage sur la voie sud avec des enfants. C'est extrêmement dangereux. Donc, évidemment, tout le monde pense à l'UNESCO, mais je ne l'ai pas fait et nous ne l'avons pas fait dans la perspective de l'UNESCO. Je pense que cet endroit était extrêmement dangereux parce qu'il y avait beaucoup de piétons et beaucoup d'enfants et il fallait le sécuriser. Maintenant, si on a la possibilité de condamner définitivement et en faisant une déviation au sud pour faire passer les voitures, de dégager l'emprise des véhicules sur les alignements, on le fera. Là, ce sera effectivement plus dans un cadre d'embellissement, d'accessibilité, d'expérience visiteur. Mais encore une fois, on ne fait pas ça simplement pour l'UNESCO. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui auraient été faites sans l'UNESCO. L'UNESCO va arriver. Il faut s'y préparer, je suis d'accord. Et le jour où on aura une vision, je dirais, globale, je n'ai pas de souci à faire une réunion publique sur la question. Hein.
Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de vision
globale. Non. Pour l'instant, on avance, on préempte là où on peut. On est en négociation avec certains propriétaires fonciers, vous le savez, pour à d'autres endroits, pour éventuellement faire de la réserve foncière et éventuellement, pour le coup, là, des parkings. Hein. Je pense qu'on sera, j'espère, amené cette année, puisqu'on n'a pas parlé de ça dans les acquisitions foncières, mais vous serez amené cette année à vous prononcer sur des acquisitions foncières dans ce cadre-là. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de grand plan d'ensemble, non. Mais quand ce sera le cas, j'ai aucun problème pour échanger et pour être totalement transparent sur le sujet.
Ah oui, des fois on trouve que c'est trop transparent, on est au courant de rien finalement. C'est un peu comme le terrain, quoi. Vous l'avez cherché.
Attendez, je peux quand même vous répondre. Vous ne pouvez pas voter contre, parce que vous avez voté comme contre l'étude de programmation, et après nous demander d'avoir des renseignements comme si vous étiez...
Monsieur le maire m'a autorisé à assister...
Donc vous aurez, pour le complexe du Ménec, vous aurez les choses en temps et en heure, de la même façon que les Carnacois et les Carnacoises, pas mieux.
C'est un peu dommage parce qu'on fait partie du conseil municipal, donc on estime quand même faire partie du débat. Et monsieur le maire, en conseil municipal, monsieur Richard... a proposé à ce que j'assiste à toutes ces réunions. Et finalement, je ne suis pas invitée. Alors, vous voyez votre transparence.
À laquelle
il n'y en a pas eu, finalement, de réunions.
Sur le complexe Ménec, non.
Vous imaginez...
Madame Le Goldman, le jour où il y en aura une, vous serez invitée.
Vous serez invitée, comme tout le monde.
Tout sera bâché, c'est ce que vous dites. Comme tous les Carnacois. Devant le fait accompli.
Madame Le Goldman.
Sans débat, monsieur Richard.
Mais vous avez déjà rompu le débat, puisque vous avez été contre l'étude de programmation du complexe sportif du Ménec. Vous avez voté contre, vous voulez qu'on reprenne vos votes?
On peut voter contre et vouloir et assister quand même, être au courant en tant que conseiller. On ne peut pas être toujours d'accord avec vous. Enfin, ce qui est dingue, c'est pour vous, le débat, il faut être comme vous. Mais un débat, c'est un échange d'idées et on ne peut pas avoir les mêmes idées.
S'il vous plaît. Madame Le Goldman, juste la précision. Parce que vous dites que vous n'avez pas été invité. Non, parce qu'il n'y a pas eu de réunion. Mais quand il y aura une réunion, vous serez invité. Et j'en prends l'engagement. Il n'y a pas de problème. Ceci dit, on essaye d'être totalement transparent. Je pense que chaque fois que vous avez demandé des documents, on vous les donne. Enfin, je veux dire, moi, là-dessus, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je me souviens, quand j'étais dans l'opposition, je demandais des documents, y compris du courrier qui m'était adressé ici. On ne me le donnait pas. Moi, quand l'opposition demande des documents, ils les ont. Okay ? À partir de là, il y a des moments où les documents sont communicables ou ils ne sont pas communicables. Quand ils ne sont pas finalisés, ils ne sont pas communicables. Mais dès qu'ils seront finalisés, vous aurez la totalité de l'information. Et j'en prends l'engagement ici devant tout le monde.
Et si vous avez suivi
le DOB... Et ça a toujours été le cas.
Si vous avez suivi le DOB, l'année dernière, vous avez voté un budget de 1 500 000 pour le complexe. Aujourd'hui, c'est 5 4 millions. Donc les choses avancent, ne vous inquiétez pas.
Bon, madame, on reste dans le sujet parce que ce n'est pas sujet du rapport. Ouais.
Concernant l'acquisition des parcelles, le prix donc revient à 5,89 euros du mètre carré. C'est une proposition là des vendeurs ou c'est vous qui l'avez
choisi ? C'est une négociation.
Non, ce sont les vendeurs qui l'ont proposé.
Ouais, oui.
D'accord.
Oui.
Alors justement, par rapport au prix, parce que d'autres propriétaires sont sollicités, parfois pour faire des chemins, pour accéder à des endroits stratégiques pour la commune, est-ce que, justement, un prix un peu peut-être uniforme, parce que là, on est en zone NM1, d'autres secteurs, c'est exactement la même chose et on
Madame
a fait
Je ferai la même réponse que j'ai fait à M. Luneau. C'est strictement impossible, parce qu'en fait, chaque cas est un cas particulier. Il y a un moment, quand vous achetez un terrain pour que ce soit une friche, il a une valeur qui est quasiment nulle. Et puis d'autres fois, il y a un intérêt stratégique parce qu'il y a un chemin à y faire passer ou il y a quelque chose. Et là, c'est toujours une négociation. Si d'aventure on faisait ce que vous proposez, enfin vous demandez, parce que je pense que vous ne le proposez pas, mais si on le faisait, je pense qu'on pourrait quasiment plus jamais acquérir du foncier de la part des particuliers, parce qu'en fait, il faut une marge de manœuvre et une latitude. Encore une fois, quand on achète un terrain pour en faire un parking pour le marché sous le tumulus, c'est pas le même prix que quand on achète une friche à milieu. Et donc, on peut pas faire ça. C'est toujours... Une vente, vous le savez très bien, c'est un accord entre un vendeur et un acheteur. Et donc, si on arrivait aux gens en disant, c'est 2,80 €, je pense qu'ils diraient, non, ça serait pas. Donc, il faut toujours un petit peu une négociation. Tout dépend de l'usage que veut en faire la commune.
Enfin, on a eu écho de certains propriétaires qui ont été sollicités justement pour faire des chemins d'accès à la station d'épuration et à qui on a proposé finalement au départ en tout cas un prix dérisoire. Et c'est pour ça que par rapport à cette somme-là, je me faisais la remarque parce que stratégiquement parlant, puisque là...
Alors Madame Le Golan, je vous arrête tout de suite, mais le prix, parce qu'on a eu une négociation avec les propriétaires et c'est pas du tout une somme dérisoire, elle est même plus élevée que celle-là.
Oui, mais... Donc il y a eu une évolution par rapport à tout ça, mais voilà.
Mais ça s'appelle une négociation. Madame Le Golvan, si un jour vous vendez votre maison, l'acheteur va vous dire « je vous l'achète 380 », vous allez dire « non, j'en veux 450 », vous allez discuter, puis vous allez mettre d'accord sur un prix. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ou pas.
C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas dire « je vous achète ça à tel prix et puis basta ». Et sinon, d'ailleurs, on n'aurait pas pu faire ce chemin de détournement qui va permettre de sécuriser le village et d'écarter les camions de la route d'un village qui est, dont la voie principale est extrêmement... donc, c'est pas possible de faire ça. L'absolu, je comprends. Hein, ce serait idéal de pouvoir dire tel classement, c'est tel prix, sauf que ça ne marche pas. Et je pense que... Je ne sais pas si vous avez mené des négociations foncières dans le cadre de vos fonctions d'adjointe. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Alors justement, c'est bien, j'avance en tout cas sur ce que je voulais savoir. Les chemins justement pour mener à la station d'épuration, c'est prévu pour quand ? Parce que là, au budget, on ne l'a pas forcément vu, ni jamais évoqué.
Normal, c'est ACTA qui paye.
Voilà, super, voilà. C'est génial.
Le problème, c'est ça, c'est ACTA qui paye.
D'accord.
On s'en est chargé.
Madame Le Golvan, si vous voulez qu'on parle, parce que ce n'est pas le sujet du rapport, vous venez me voir après le conseil, je vous explique tout le problème, enfin tout le problème, parce que c'est résolu, la question de ce chemin, mais il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas le sujet du rapport.
D'accord, mais ça m'a permis de poser
ces questions. Mais si la question vous intéresse, je vous fais un exposé, puisque le problème est résolu aujourd'hui, donc aucun souci.
D'accord, et c'est par ACTA, en fait, que c'est venu tout
ça. Oui, tout à fait, c'est ACTA qui va se charger d'acheter des terrains et puis de faire ce chemin.
D'accord.
Oui.
OK, merci.
Et il devrait faire, au niveau délai, vous me demandiez quand, ça sera fait normalement avant l'été.
Très bien.
D'autres points ? Monsieur Luneau ?
Je vous remercie. Une question concernant l'acquisition des parcelles BI 70 et 71 au village du Ménec à Madame Guéranger. Une parcelle de 2161 m², l'autre de 386 m² pour 15 000 euros, l'ensemble faisant 2547. En vue, je cite, dans le cadre du projet UNESCO de créer du stationnement, ces parcelles jouxtent précisément à un cromlech. Alors le stationnement... oui, mais je ne comprends pas, j'aurais comprendre pourquoi achète... C'est écrit,
hein. Luneau,
je vais vous demander de me laisser terminer.
Monsieur Luneau, j'ai déjà répondu, donc ce n'est pas la peine de poser la question, parce que je ne répondrai pas.
Mais pourquoi écrire que vous voulez créer du stationnement
Parce que on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Et Monsieur Durand a pensé à ça, ce qui arrive à titre personnel. Encore une fois, sauf si les 25 membres de l'équipe décidaient le contraire, je m'inclinerai. Je ne souhaite pas qu'on y fasse un parking. Voilà.
Alors, pour dire, Pierre Léon,
je vais finir ma question parce qu'il paraît peu récent. Je veux bien terminer une question, en fait. Si
bah,
vous êtes d'accord.
Oui, mais bon, mais tu as terminé. Deux fois la
donc,
même
la question. Après la virgule, j'avais. Donc je m'interroge sur le fait de la pertinence. Je reprends. Vous pourriez voter pour un parking dans un cromlech en voulant préserver le patrimoine. Et ça me paraît complètement.
Encore une question auquel on répondra pas.
Comment laisser une telle porte ouverte?
Pierre Léon, est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît?
Est-ce que vous avez demandé un avis à la BF avant de vouloir créer du parking au milieu d'un cromlech?
Bien sûr.
On a l'obligation et.
Mais on connaît le règlement d'urbanisme. Oh,
mais c'est vous signer un chèque en blanc pour faire des parkings où bon vous semble. Mais...
Bon,
c'est
dément. Et donc, Michel, vas-y, puis après on passera au vote.
Je peux répondre là maintenant, Pierre Léon.
Parce
que c'est précisément un cromlech, c'est pas.
D'accord. Je peux répondre ou pas là? D'abord, la parcelle n'est pas dans le cromlech. Si la partie est arrondie là, c'est parce que c'est le cromlech, justement. Et c'est juste en dehors du cromlech. Ça peut être également en face du platelage, une randonnée, un chemin de randonnée qui suivrait tout le cromlech, qui descendrait à l'intérieur du village, où on voit une petite parcelle en longueur. Nord-sud.
Ok.
Je ne vais pas m'éclairer sur la subtilité de décrire. Pourquoi vous décrivez stationnement alors vous pourriez au moins être rassurant là-dessus.
C'est une coquille, ok.
Une coquille, non mais. c'est vraiment spooky. Tout le monde, c'est une coquille dans.
Bon. C'est envoyé au préfet. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Ça devient honteux.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous propose de passer au rapport suivant. On repart sur Monsieur Oudois, c'est ça ou...
Oui, c'est le retour de promenade bucolique.
C'est le retour du marathon.
Donc le contrat enfance-jeunesse, c'est ce qui nous permet entre autres de percevoir en fait une aide de la part de la caisse d'allocation familiale dans le cadre de l'accueil de loisirs. Et là, en fait, il y a la nécessité de passer un avenant pour qu'on puisse bénéficier d'aides supplémentaires concernant en fait la ludothèque, qui peuvent aller donc jusqu'à 9 585,89 € par an.
C'est la ludothèque. Bon, très bien. Écoutez, je peux même le faire tout seul à ce moment-là. Et donc, il vous est proposé de modifier à compter du 1er mai 2023 le tableau des emplois joint en annexe et d'inscrire les crédits nécessaires au budget dans le cadre de ce projet ludothèque. Madame Le Golvan ?
Oui, la ludothèque, quand on avait voté pour qu'elle soit mise en place, en tout cas, c'est parce que visiblement, il y avait une baisse de fréquentation au niveau de la médiathèque. Et voilà, c'était un petit peu pour booster les entrées. Enfin, c'est ce qui avait été présenté à l'époque.
Il n'y a pas vraiment de baisse. Enfin, il y a eu le Covid, évidemment.
Il y a eu une baisse pendant le Covid, forcément. Ouais, donc ça a été difficile pour remonter. Donc effectivement, et puis l'équipe de la médiathèque souhaiter effectivement s'investir dans autre chose et une ludothèque, c'est
alors justement, ça quelle fréquentation, quel type de population
Alors la fréquentation, de toute façon, elle s'est ouverte en septembre, donc on fera un point forcément un an après. Donc là, on a fait un point à la fin de l'année. Donc en fait, ils sont très contents, bonne fréquentation. Donc il y a à peu près 92 abonnements de Carnacois, donc depuis début septembre. Il y a 32 abonnements d'extérieur, puisqu'on a différencié. Ensuite, donc, vous avez à peu près 1410 personnes qui sont montées dans les étages, puisque là, c'est des jeux où on joue directement dans la ludothèque. Donc il y a à peu près 1400 personnes, donc ça fait à peu près 70 personnes par semaine. Donc ça fonctionne bien. Donc il y a plein de jeux. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes allés, mais des jeux, personnellement, moi, je ne connaissais absolument pas. Donc il y a à peu près 9 dixièmes des jeux. C'est tous des jeux nouveaux. Et effectivement, il faut savoir que les jeux, c'est vraiment dans l'air du temps. parce qu'il y a beaucoup de cafés, bars à jeux. Donc voilà, c'est un bon investissement d'avoir ouvert cette ludothèque. Et quant à la fréquentation, ben c'est soit des familles avec des enfants, puisque dans la médiathèque, il y a un espace jeu, donc pour les familles avec les petits. Et il y a surtout beaucoup de jeunes qui viennent à plusieurs, notamment pour les jeux vidéo, forcément, qui attirent beaucoup. Mais voilà, donc c'est pour l'instant, c'est un bilan très positif. Donc on va continuer, on va essayer d'investir ça peut être aussi au niveau des scolaires. Des jeux, de toute façon, on investira. Mais par exemple, plus au niveau des scolaires, il y a plein de projets dans l'équipe de la médiathèque ludothèque. Okay. Voilà.
Merci.
Parfait. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pas de questions orales, pas de questions diverses. Je vous souhaite donc tous de passer un bon week-end. Merci à tous.